R22 Tout Monde, antenne La Fabrique Fantôme.
Bonjour, aujourd'hui on reçoit Jamel Kerkar, cinéaste, pour son premier film Atlal qui a été présenté au dernier FID Marseille en première mondiale. Bonjour Jamel.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bienvenue au sein de la R22. Alors, on va peut-être commencer juste par le début et découvrir progressivement un peu le sujet et l'écriture du film. Peut-être commencer par la découverte de ce lieu que tu présentes dans le film. Alors, il y a peut-être plusieurs lieux, mais il y a ce lieu central, cette petite bourgade Oulet Halal. Quel est ton rapport avec cet endroit? Est-ce que tu le découvres en passant là et tu décides de construire un peu le vocabulaire de ton film et qui est très lié justement à ce paysage très particulier? Ou est-ce que c'est un endroit que tu connais plus personnellement au départ?
Le film commence sur une intuition de départ qui était une région qui est au sud d'Alger, qui s'appelle Amitidja, qui est vraiment se trouve au dos d'Alger, entre une chaîne de montagnes et une extension de la ville d'Alger, donc la banlieue sud d'Alger, et qui est une région agricole qui m'intéressait essentiellement par le fait que plusieurs strates de l'histoire se retrouvent dans ce lieu, donc la guerre de libération, et surtout le fait que pendant les années 90, ça a été quasiment un territoire totalement libéré aux mains de l'armée islamiste, en fait. Et du coup, j'avais une intuition de départ qui était de faire un film sur ce territoire-là. Et au fur et à mesure de déambulation dans cette petite région, je tombe sur ce village qui est Oulet Halal, et qui est aussi lié un peu... Enfin, je connais un peu le lieu par des échos... Parce que c'est quand même le village a été totalement rasé pendant les années 90. Donc énormément de personnes parlaient de ce lieu. Mais je crois que psychologiquement, il y avait toute une espèce de mythologie qui s'est constituée autour de cette région. Donc les gens avaient extrêmement peur de revenir sur les lieux. Même les habitants ne revenaient pas. Ce n'est que maintenant que les gens reviennent pour reconstruire et tout. Donc je tombe sur ce petit village. Et tout de suite, je me dis qu'il y a un film à faire maintenant, là, tout de suite. Et donc, le film est né avec une urgence de poser sa caméra dans ce territoire.
Au moment, justement, où la reconstruction a lieu, puisque ce qui va être très prégnant dans le film, c'est que d'abord s'installe, je dirais, un premier récit qui est un récit visuel, plastique, un récit paysager de désolement, en quelque sorte, où on ne sait pas si c'est une ruine, justement, ou une ville en train d'émerger, et puis finalement c'est un peu entre les deux, en train de se reconstruire, on ne sait pas si on est en construction ou en destruction. En tout cas, il y a une volonté aussi au départ de laisser monter le récit à partir de l'image et notamment de la manière dont le paysage est affecté ou dont la ruine ou dont le corps du bâtiment, qui est quand même le premier corps avec lequel on est en rapport dans le film, le corps du bâtiment donc porte en lui-même dans ses stigmates l'histoire qui n'est pas encore nommée à ce moment du film.
Exactement, le point de départ est autour de ce territoire suspendu qui est justement entre la ruine mais aussi entre des maisons en construction mais qui sont aussi un peu dans un état de ruine parce qu'on est dans quelque chose de très artisanal et minimal. Et du coup, l'intuition du film, le point de départ vraiment, c'était j'avais cette sensation sur le lieu qu'il y avait un oratorio qui se jouait dans un silence et que justement par l'outil du cinématographe, donc l'association de l'image et du son, je pouvais rendre compte ou faire ressentir ce qu'il y avait dans ce territoire. Et je parle vraiment de territoire parce que c'est vraiment un personnage dans le film. L'écriture au montage s'est constituée autour de ce rapport au territoire et aussi à l'idée de la ruine, de ce qu'elle porte comme mémoire réduite au silence, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'impulsion, de résilience de la population pour reconstruire, revenir sur les lieux, pour justement repartir justement de ces ruines et réagencer ou réarticuler la vie, en fait, dans un théâtre tragique.
Cette idée, moi, de réarticulation m'intéresse aussi parce qu'au départ, sur le film, je trouve que tout le film joue aussi sur presque une forme performative. Je me rappelle de ce monsieur qui empile des briques pour monter, pour réparer un peu sa fenêtre. Et on a l'impression vraiment qu'on est dans un traitement presque d'un cadre assez plastique qui travaille sur des motifs et à la fois aussi sur la manière dont chaque geste va s'inscrire dans un geste qui lui-même a une forme de théâtralité, parfois tragique, parfois burlesque. Il y a quelque chose qui, avant même que je dirais que la voix arrive, qui va donner un autre statut au corps, d'abord le corps vient jouer dans un espèce de théâtre.
Exactement. Mais pour ça, il faudrait aussi revenir à l'idée que Atlal, le nom du film, donc, veut dire en arabe littéraire ruine, mais c'est aussi une discipline poétique qui existait dans l'ère pré-islamique, qui sont des espèces de préludes avec lesquels les poètes... la langue arabe n'était pas écrite à cette époque-là, mais c'était une transmission essentiellement orale, où le poète avait une place centrale dans la vie d'un village, ou d'une population, ou d'un groupe. Et donc le point de départ, c'est... Atlal, c'est se tenir, je traduis littéralement, c'est se tenir face aux ruines, et donc partir de ce qui est physique pour invoquer... ce qui est invisible, donc la mémoire, les souvenirs. Et dans le film, il y avait quelque chose que je trouvais très important et qui rendait compte de quelque chose qui est réduit au silence dans ce territoire, mais aussi par rapport à l'histoire, la grande histoire en Algérie, c'est que les années 90, ou ce qui s'est passé dans les années 90, on en parle très très peu. L'histoire n'est pas écrite. Et du coup, je trouvais que c'était le meilleur moyen de rentrer dans quelque chose et de ne pas tomber dans le piège de vouloir écrire une histoire d'une complexité diabolique. Le bon moyen, c'était de revenir à l'essence de la chose, c'est-à-dire les petites histoires des personnes. L'écriture personnelle de quelqu'un qui a vécu ici 30 ou 10 ans ou 20 ans. Et du coup, il y a quelque chose qui a commencé à émerger justement du silence, qui est une espèce d'évidence qui vient au lieu, au territoire, parce que bon, il y a une partie qui est totalement en construction, il y a aussi une partie qui est un lieu de désolation où il n'y a que les traces d'une guerre non écrite. Du coup, je trouvais que le film, comme le film rencontre de plusieurs strates historiques, mais d'une manière non frontale, le meilleur moyen, c'était de commencer par une espèce de prélude, justement, comme dans un poème, où on ferait invoquer la mémoire par justement des matériaux, des signes qui sont portés dans ce territoire.
Ce qui me semble aussi très intéressant justement pour un spectateur extérieur à ce récit, c'est que tout ce début du film, on se demande de quel conflit il peut bien s'agir. Et ça montre justement peut-être ce que tu avais envie de montrer, c'est que cette décennie noire, tragique, extrêmement violente, et les récits en rappellent qu'on est dans des niveaux de violence inouïs, pas simplement sur le nombre de morts, mais même sur les conditions dont on tue les gens, les enfants, nous montre que cette histoire, en fait, elle est complètement là matériellement et complètement tue. Et à la fois, et ce qui semble être très fort quand le film se déploie, cette décennie noire et cette guerre civile algérienne non racontée résonne étonnamment avec ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, on se dit, oui, mais du coup, on n'a pas raconté ça, mais si on avait prêté attention, on serait beaucoup plus enclin à comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, certainement. Mais en fait, le film évoque justement le point de départ, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, mais je pose ma caméra aujourd'hui, 20 ans après. Et du coup... c'est quelque chose de l'ordre de l'évidence que je questionne l'histoire de ce lieu, donc qui est une minuscule fenêtre par rapport à la grande histoire, mais je la questionne de mon point de vue. Le tournage s'est déroulé en 2015, donc à partir de ce qu'il y avait sur le lieu en 2015, et aussi je pars surtout du principe que comment la vie se réarticule ou se réagence dans un lieu où, qui a été justement totalement dévasté et qui a été carrément un théâtre d'horreur et de tragédie.
Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, il va y avoir, on va dire, deux régimes de corps qui vont dans l'histoire. Un corps historique qui va relier quand même cette histoire-là à la question des indépendances et à la question donc, au départ, des espoirs portés par l'indépendance et la fin de la colonisation. Et un autre corps qui est un corps d'aujourd'hui, jeune, qui est un corps qui est jeune mais déjà vieux. On voit ces personnages-là très, très poignants parce que ce sont des jeunes gens mais qui ont déjà une espèce de destin tragique qui les traverse, qui savent que quelque chose va devoir quelque part être digéré par des générations qui arrivent, que le drame qui s'est noué là est dans les corps. Et comme un des personnages le dit, voilà, les jeux d'enfance étaient déjà des jeux de guerre et de violence. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible à 20 ans d'être un jeune homme de 20 ans dans la légèreté. Il y a quelque chose qui pèse et qu'il y a quelque part un prix qui est payé par une génération qui arrive. Ce qui me semble très intéressant, c'est que ça relie aussi du coup la question du départ, qui est une question évidemment très présente et très récurrente dans les jeunesses, notamment dans le pourtour méditerranéen, mais là qu'il ancre aussi dans une question historique, et pas simplement dans une espèce d'évidence du miroir aux alouettes du Nord. Là, on a quelque chose qui est simplement une impossibilité de vivre là, qui repose sur des choses qui sont extrêmement concrètes et tragiques, mais aussi, comme le dit le personnage, c'est pas tant dans une projection fantasmée d'un mieux vivre que simplement être ailleurs. Mmh. Il dit, je peux être en Somalie, je pourrais être...
D'ailleurs, il y a trois strates dans ta question. C'est que, moi par exemple, le départ du film, c'est une urgence de poser ma caméra et fabriquer des sons dans ce lieu à ce moment-là. Mais j'avais une espèce de carte de navigation. Et par exemple, une des phrases qui m'avait vraiment marqué, c'est un vers d'Allen Ginsberg qui dit « All our language is taxed by war ». Donc tout notre langage est taxé par la guerre. Et cette phrase m'a travaillé pendant tout le tournage parce que tous les signes que je pouvais percevoir à travers une caméra et mon micro, c'est que rendait compte ou disait ça implicitement ou explicitement. Et du coup, historiquement, il est traversé par par trois générations quasiment d'hommes. Donc les récits de trois générations qui n'ont jamais été transmises, en fait. Et le film relaie les trois générations d'une manière explicite. Un des personnages qui est le plus vieux, Amir Abah, pourrait être le grand-père du jeune qui voudrait partir aujourd'hui en Europe, mais pas forcément en Europe. Il dit, le désir de partir, le départ, est quand même très fort chez Abdou, donc le personnage le plus jeune. En fait, la question sociale, je ne l'ai jamais exploité, enfin, je l'ai jamais travaillée dans mes anciens films. Mais là, dans ce film, elle m'a paraissé évidente parce que c'est intrinsèquement lié aux différentes trajectoires. Et justement, pour rendre compte d'une complexité historique, mais aussi de trajectoires individuelles, il fallait justement partir de ça, de ce que vivent les gens, comment ils interagissent avec différentes personnes qui sont autour d'eux, mais aussi avec l'ordre établi. Et du coup... Chaque personnage dans le film raconte par sa trajectoire des bribes de la grande histoire qui nous donne justement des pistes ou une manière de se projeter dans une complexité historique justement. Et ce qui m'avait le plus bouleversé dans le film, c'est le fait que chaque personnage raconte son expérience avec la guerre, mais quand il avait 20 ans. Amir Abah, le point de départ, c'est que je le questionne sur ce qui s'est passé dans ce territoire il y a 20 ans, mais lui, il me ramène beaucoup plus loin historiquement. Il revient à la guerre de libération, donc au moment où il avait 20 ans, il se projetait justement dans la vie. Et il se cogne à toute la complexité de l'histoire, ce qu'elle porte tragiquement. Abdou, il a 20 ans, maintenant aujourd'hui, c'est le personnage qui parle le plus frontalement de ce qui s'est passé dans les années 90, à partir de son expérience personnelle, donc de ses jeux d'enfant, de son histoire avec son père. Et l'Akhdar, donc le personnage le plus mystérieux dans l'écriture, qui ne parle quasiment pas dans le film, mais quand il prend la parole, justement, il rend compte de ce qu'il a traversé.
Du traumatisme.
Du traumatisme psychologique, physique. Et surtout, ce qu'il dit, ce qui est important, c'est que justement, all our language is taxed by war, c'est que jusqu'à aujourd'hui, une image est encore dans ses yeux Il est confronté à cette image constamment, et donc son sommeil, sa santé physique, ça sent, enfin, tout est relié à ce traumatisme.
كنا نروحو نجدو ندو الشرارط والبراوط وكلش نروحو نعمرو المنفر وبعد عاد يخرجوا لنا لي كوبوي انا الارهاب نقول لهم لي كوبوي قليل اللي يعرفها هذه الاعلام الازرق الاعلام الاخضر الناس كي يعيطوا لي يعيطوا لي باللي يسلموا عليا ويقول كي نتلاقاو يسلموا عليا ويقولوا لي الاعلام الاخضر السي الاخضر وشعبه يقولوا لي السي الخضر وشعبه دوك حنا متفاهمين باللي السي الخضر شكون هو الاعلام وشعبه هو الشعب سمى العسكر كلمه السر هما ما يفهموش من بعد كي يروحوا يقولوا لي طماعين هذو يحسبونا على الاعلام وعلى الجزائر المهم كيفاش خرجنا كي خرجوا لنا في المفتوتة عادوا يشرشوا لنا عندنا حنا الديمين ينقصوا حتى عادوا الناس يخافوا عادوا ما يروحوش يعمروا الماء خلاص فيني وقت تعمر الماء مور العصر سي تادير ما عندكش اون شونس باش تسلك اللي داوه من فم يدوه للغابه اما لكن حاولنا الموتور هذاك.
Mais je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas ce qu'informe le film, et là je pense pour un regard qui peut venir notamment d'ici en France, c'est qu'il renseigne, je trouve qu'il rajoute des couches à un regard qu'on a de l'histoire d'Algérie. Moi je sais que quand on n'est pas intéressé particulièrement à ces questions-là, moi c'est mon cas, mais je sais que c'est pas le cas de plein de gens, on oublie cette séquence-là, qui pour moi montre une société où quelque part et la pratique religieuse et les pratiques pieuses des campagnes sont complètement massacrées par l'islamisme, ce qui est quand même quelque chose qui tranche et qui sépare une société elle-même en plusieurs parties et qui, à mon avis, renseignerait utilement le débat aujourd'hui. Parce que se rendre compte, comme on le dit extrêmement souvent, c'est que le plus grand nombre de victimes du terrorisme islamiste sont des musulmans, quoi, et très largement, et de manière très féroce.
Ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, c'est que la société civile a été livrée à l'islamisme radical et les résultats, c'est quand même, selon les chiffres officiels, c'est 200 000 morts, ce qui est vraiment une immense tragédie. Et la manière dont est perçu le film, par exemple en France, est souvent beaucoup plus... En tout cas, on sent la complexité de la relation entre la France et l'Algérie, et même en Algérie. C'est-à-dire, quand je montre mon film en France, on parle souvent en Algérie de comment il a été reçu en France. Et du coup, ouais, la question de la guerre d'Algérie, elle est justement... C'est une histoire qui ne s'est pas écrite, c'est un conflit, c'est une tragédie qui n'a pas eu un dénouement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et du coup, il y a énormément de choses qui ressortent explicitement ou implicitement par rapport au rapport entre la France et l'Algérie aujourd'hui, et même par rapport à la guerre. Enfin, surtout par rapport à la guerre de libération, mais aussi il y a énormément de projections qui sont faites avant même de venir voir le film, en considérant que le film est algérien. Il y a énormément de projections qui sont déjà installées, en fait. Et le film désarçonne beaucoup de personnes formellement déjà, parce que c'est une forme un peu abrupte et qui peut être dérangeante pour certaines personnes, mais en même temps par le propos aussi, parce que on revient sur des choses que énormément de personnes ne faisaient pas cette image dans leur tête avant.
Oui, mais là, en ce que tu dis, je pense qu'il y a une sorte de continuité un peu infernale qui est que le grand conflit de la guerre d'Algérie lui-même après n'est pas raconté, mais comme le moment nationaliste algérien et son rapport avec les islamistes à l'époque n'est pas raconté, puis le conflit entre cet État de moins en moins légitime et lors de la décennie noire avec l'islamiste n'est pas raconté, les morts que ça fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de difficulté, et pour le coup de part et d'autre, mais pour des raisons et des modalités différentes, il y a une espèce de quelque chose qui bloque en termes du récit. C'est-à-dire que, autant on peut dire qu'effectivement en France, il y a une volonté qui a été longtemps assumée de taire ce récit-là, autant, j'ai envie de dire, du côté algérien, je pense que le grand récit nationaliste a aussi masqué tout un ensemble de récits qui auraient dû avoir aussi... qui aurait dû venir à nos oreilles et peut-être nourrir la complexité de l'Algérie telle qu'elle était.
Justement, oui. Et par exemple, un des personnages du film, donc Amel Haber, qui est au milieu de ses vergers et qui raconte justement l'histoire de sa terre, Mais vraiment au quotidien, c'est parce que j'ai passé énormément de temps sur les lieux et avec les personnes. C'est la première fois que je me retrouve confronté aux gens sur lesquels le récit nationaliste s'est imprimé, en fait. Mais c'est imprimé d'une manière totalement différente que le système établi aurait voulu qu'il soit. Et ce que raconte, par exemple, Amir Abar par rapport à sa terre, déjà, et on voit... Le discours nationaliste, il est là, mais il est justement imprégné de quelque chose de beaucoup plus personnel, et on voit aussi qu'il a un rapport beaucoup plus sain, en fait, par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait et son engagement.
D'ailleurs, il dit qu'il a été quasiment laissé pour compte. Quoi. Il dit pas non plus, il n'est pas tendre avec l'État. Il montre qu'il y avait effectivement une attente extrêmement forte, un attachement à la terre, mais qui est un attachement pas tant territorial que matériel, technique. Hein, mais il explique aussi qu'à un moment donné, ils sont abandonnés.
Exactement.
Totalement abandonnés, et même difficilement, c'est difficile à croire, mais voilà, presque occupés par une armée d'occupation de nouveau.
Oui, exactement. Et c'est ce que moi, ce qui comptait le plus pour moi, en tout cas en faisant ce film, c'était de rendre compte des résiliences d'une population, et à différentes échelles. La résilience, ça peut être justement du côté de Amir Abar, sur qui un discours nationaliste du Parti unique s'est imprimé, et qu'il a justement dû se lutter au quotidien pour pouvoir mener sa vie. Et à côté, on a aussi des jeunes rappeurs qui pourraient être les petits-fils de Amir Abar, mais qui font de la musique et qui écrivent, qui ont une parole très virulente, quasiment frontale par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport aux arbitraires qu'ils subissent au quotidien. Et du coup, le film s'est articulé autour de cette parole. Atlal se glisse d'un silence terrible qui est celui des corridors de l'histoire non écrite, à une libération de la parole, non pas donner la parole, mais justement une libération de la parole par rapport à ça. Parce qu'au quotidien, les gens sont conscients de ce qu'ils devront faire pour survivre ou pour justement écrire leur histoire. Et du coup, ouais, il fallait non pas faire un film sur des gens, mais faire un film avec des gens et autour de ce qui les traverse.
طالب بلاش وحد غريب وانا ما دباه تارك اهلي مد طريق وانا ما دباه غريب نلقى النياب من حوسنا كل وحد يستق في مياه ومياه قصاتنا كل ما تأمنيش ما يهمش مهم تعرف راحك ما تعرف كل الشايق رالي وش مكتوب في لوحك بلا ما تكوف روحك مقدرش يكون ديرنا انا هذا الراب نديرو مش هو اللي ديرنا كلش بداي ترابط مخي طالع هابط ولا يجبني الكورو ما لي يفكروني ما لي ما تدورو كيف ولا خابط بعيتي راح طورو حتى نجيب افكروني من اللي تخلق بينا يا صغار تطور ليلك يا ابلو ديما حبدو هاد تطور ايا ملينا حبينا من الحنور اشرا كان سخونة خلات الدم يفور صور كل دور حبينا السهر يتفوق تقدر تعرف ويسرى لما نكمل لك ليدي وبس تحكم الزاير معليش تكون معوق خلي التاريخ يكتب يجي يقرا وليد وليدي مكاش اللي نقول له سيدي كي سيدي هو سيدك ديش علاش نخرج سيدي اذا الحرام يزيدك والخير وانا سيدك وريني كاش نصيدك كيفاش تكون سباع والغزالة نجوز صيدك روح الغرب وانا مليش روح الدور برد ولا مليش مانيش نورمال بلا خليك ورا حليك نوالي كليك رايح مور رايح مور بحر نشوف روت اليوم انا غميلو شكا رايح مور كارو بوك عيني الحمورة مشي ربكا سبالي مقضي سبالي عني مشيان مكش وين نوسع بالي كاين الناس كل حسانة ينسبالي كل محيلي سيئة يسبالي كمل يزبالي.
D'ailleurs, on retrouve dans le film un dispositif un peu en foyer, peut-être retrouver l'idée même de ce qui est détruit dans le film, c'est-à-dire le lieu dans lequel on peut se retrouver pour parler. Alors pas simplement le lieu personnel, mais presque le lieu de la communauté. Il y a la question du feu qui est quand même très récurrente pour les jeunes, dont certains racontent aussi la manière dont les conditions climatiques sont imprimées dans la mémoire du corps, mais aussi le foyer comme endroit où on peut faire tourner la parole.
Mais c'était ça ce qui était fascinant, c'est que le territoire du village est constitué de petites îles, et la caméra navigue d'une île à une autre, donc ça forme une espèce d'archipel. Et chaque personnage a sa propre intimité par rapport à un territoire défini qui est un micro-territoire. Donc Amel Abeh, il est totalement libre quand il vient dans le lieu qu'il a choisi pour témoigner. Pour les jeunes, par exemple, le soir, le fait de se retrouver autour d'un feu et d'écouter de la musique, de discuter, devient une espèce de zone autonome temporaire et quasiment comme une agora où tout est discuté. Le rapport politique, le social, les projections dans la vie, mais parfois ça devient même un lieu de création parce qu'on fait de la musique qui est très spontanée. Donc le rap, le rapport au freestyle dans le rap est quand même quelque chose de très spontané. Donc quelqu'un a un texte dans sa tête, il y a une instrumentale, il s'adapte sur un rythme musical et il donne quelque chose de très précieux à ce moment-là.
Et du coup, alors dans le film, comment tu expliques l'absence quasi totale de femmes alors ?
Ça, c'est un fait social, purement un fait social, parce que l'espace extérieur ou l'espace public n'est pas occupé par des femmes. Par contre, l'idée, bon, physiquement, elles sont absentes, effectivement, mais tous les personnages parlent.
Ah oui, ils parlent des mères, notamment.
Des mères, des copines. Et du coup, ouais, elle est absente, mais cette absence, justement, elle est criante de parole. Et le fait que chaque personnage est habité par une forme féminine, donc Abdou avec sa copine, où à ce moment-là, je suis vraiment dans un rapport d'intimité. Et moi aussi, je m'installe par la parole dans le film. Amira Bah ou l'Khdar qui tire, le personnage qui tire les arbres. Enfin, y a un rapport quasi amoureux à la terre, à ce qu'on plante dans cette terre, comme une terre-mère, justement. Voilà. Donc oui, la femme est absente physiquement, mais justement par le récit de trois générations d'hommes, on arrive à constituer une espèce de représentation justement dans cette absence. Quoi. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire, mais le fait qu'on glisse encore une fois dans un intérieur ne fonctionnait quasiment plus.
Ouais. Ouais, l'idée du film, c'était de garder cette idée de, comme il y a la ruine au départ, c'est une espèce de maison sans mur, et du coup, là, on est dans cet espace un peu qui est à la fois extérieur, mais en réalité qui crée quand même des éléments d'intimité. C'est pas...
Exactement. Et je pense que peut-être c'est un autre film qui doit être fait en intérieur, avec des femmes, avec un autre dispositif filmique, probablement une autre équipe de tournage.
Je voulais parler de ça justement, que tu parles de dispositif filmique, et je trouve que le film, comme tu l'as dit, peut aussi désarçonner par sa forme. Je trouve que ce serait intéressant que sur ce type de sujet-là, et matériaux documentaires et historiques ô combien brûlants, que tu tiens quand même tout le long du film la volonté de mettre en place un dispositif assez radical et tenu, l'installation des espaces et des silences sur des assez longues périodes et l'apparition de la parole. Qui, même quand elle est frontale caméra, on a l'impression qu'on est toujours dans un dispositif extrêmement tenu et continu. Comment ça a été justement reçu, ça, et comment toi tu l'as pensé au départ ou tu l'as installé au montage ? Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette écriture qui, du coup, est très visible, alors que sur ce type de sujet-là, on aurait tendance à dire la parole suffit, quoi. Ce que je pense pas.
Hein. Ouais, justement. En fait, il y a plusieurs. Il y a plusieurs choses qui ont mené à ce que le film soit comme ça. Une des premières choses, c'est que c'est un film artisanal. Il est fait avec très très peu de moyens. J'ai commencé par exemple à tourner tout seul, en faisant l'image et le son. Et par la suite, dans la deuxième moitié du tournage, un ami qui n'est pas technicien, c'est-à-dire il est photographe et musicien, justement, je l'ai ramené parce qu'il avait une espèce de perception, une fraîcheur, une distance qui m'intéressait. Et du coup, il y a ce fait concret qui est un fait de production quasiment, qu'on est parti quasiment de rien. Et que par la suite, il y a. Moi, je conçois le cinéma avec des choses vraiment hyper minimalistes. Par exemple, le cinéma pour moi, c'est du corporel et du non-corporel. Le non-corporel pourrait être une ruine, une maison en construction, un arbre. Et un corps qui peut être un corps silencieux dans cet espace, comme il peut être un corps d'où la parole émerge. Voilà, donc les points de départ du film sont vraiment quelque chose de très minimaliste par rapport à ce territoire. Je me dis, j'ai 3-4 éléments, et à partir de là, une écriture va se constituer en fonction de la vie, quoi, de personnes que je rencontre, des affinités. Il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées sur le lieu qui ne figurent pas dans le film, qui étaient même réfractaires à l'idée que je fasse un film dans ce lieu.
Et pourquoi ils étaient réfractaires?
Parce qu'il y a un rapport à l'image qui est un peu dans la suspicion, que voilà, quelque chose est caché, qu'il ne faudrait probablement pas la montrer. Il y a aussi le fait que l'image en Algérie est extrêmement complexe parce que c'est une société très orale, où la parole compte énormément, mais en même temps, la parole est conditionnée, en tout cas en termes de représentation, par des représentations de télé. Et le contre-champ cinématographique n'existe quasiment pas. C'est-à-dire, les films, enfin mon film, ou les films d'autres cinéastes n'ont pas de portée, ils ne sont pas distribués, c'est très très rare. Donc il y a 2-3 festivals qui...
Et justement, quand tu as été amené à montrer le film en Algérie, comment de deux manières, comment effectivement son contenu a été reçu, mais aussi évidemment comment son vocabulaire a été reçu et par qui?
Essentiellement des gens qui sont autour de la création, de la culture en général pour l'instant. Parce qu'il n'est pas encore allé à la rencontre du public, parce que le seul festival qui pouvait le programmer... il y a 2-3 mois, elle ne l'a pas pris pour des raisons artistiques et techniques, qui en dit long aussi sur le rapport que peut avoir justement un système culturel étatique par rapport à ce type de film. Parce qu'on ne veut pas entendre cette parole-là. Mais généralement, le film désarçonne beaucoup de personnes, mais ils se rendent compte que c'est très important. Ils se rendent compte que c'est un geste qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire, libérer la parole autour de ce qui s'est passé dans les années 90. Il y a eu beaucoup de films de fiction sur la question, mais jamais de documentaires. Où il y a eu un ou deux documentaires qui étaient vraiment fabriqués justement avec le point de départ de la parole compte énormément. Mais c'est une parole qui est très consensuelle, lisse.
Oui, tandis que là, tu n'hésites pas, au contraire, à avoir une parole où tes choix sont... La parole est du coup très visuelle, parce qu'elle raconte des événements très marquants, très tragiques, des meurtres. Ce militaire qui découvre un enfant de 7 mois coupé en morceaux, cette petite fille, on dit tiens, ils ont enlevé la petite fille, ils ont été demandés de la rendre, et moi, comme spectateur, je me dis, à un moment donné, il la ramène, la petite fille, non? Et la phrase d'après, en fait, il la retrouve égorgée. Donc c'est vrai que tout de suite, on est pris dans un espèce de parole qui fait image. Et finalement, je me suis dit, il y a une économie de la parole dans le film, mais à chaque fois qu'il y en a, on a l'impression que la taille du récit est très vaste, parce que ça renvoie à des horreurs qui détruisent en fait ce qui fait lien social, c'est-à-dire notamment le meurtre des enfants. C'est quelque chose qui typiquement exprime une espèce de destruction ultime de ce qu'il y a de plus sacré et de plus liant dans une société. Et je me suis dit, à la fin du film, finalement, première fois que je l'ai vu, je me suis dit, en fait, il n'y a pas forcément autant de paroles que j'ai l'impression, mais elles m'ont tellement travaillé en écho qu'elles peuplent vraiment le film d'images un peu fantômes, je dirais.
Exactement, oui. Et du coup, toute la partie silencieuse au début du film, et habité justement par la parole qui s'est libérée par la suite. Donc ce glissement du silence, qui est quasiment pour moi une évidence, parce que ce qui s'est passé pendant les années 90 était d'une telle horreur qu'il fallait que le film rende compte de ça, mais comme dans une comme dans un deuil, quoi. Qu'il commence par une espèce de pas comme dans une procession, mais comme quelque chose de la dignité du deuil, quoi. Quelque chose qui est dans la retenue, dans le silence, mais aussi qui installe quelque chose qui est propre à ce lieu, mais aussi et surtout à la population qui a subi ça. Mais je ne m'attendais absolument pas qu'à un moment donné, quelqu'un aille aussi loin dans sa mémoire. Mais c'est ça ce qui était très fort, c'est qu'il y a un flux entre le filmeur et filmé, et à un moment donné, c'est les personnes qui s'approprient quasiment le film pour rendre compte de ce qui est important pour eux. Donc, par exemple, pour l'histoire de la petite fille. Et je pense que c'était très important pour eux de revenir sur le fait que quand on touche, quand l'horreur arrive à tuer l'enfant ou l'enfance, il n'y avait plus de vie dans ce lieu. Et justement, le personnage qui raconte ça, il dit à ce moment-là, tout le village est devenu... Enfin, on a tous quitté le village. Donc il raconte son départ à partir justement d'un fait concret qu'il a vécu personnellement et qui aussi devient non pas son histoire personnelle ou l'histoire de la famille qui a perdu la petite fille, mais devient les mémoires de ce lieu. Donc oui, et c'est à ce moment-là par exemple que je me suis rendu que je ne faisais pas un film sur un lieu de mémoire, mais sur les mémoires d'un lieu. Et du coup, ça rendait vraiment une complexité que je trouve très importante, justement, pour comment représenter une guerre, justement. C'est un sujet extrêmement compliqué. Et du coup, oui, j'ai trouvé, non pas personnellement, mais justement en me cognant au réel et aux histoires des personnes, une manière de rendre compte de ce qui s'est passé dans ce lieu. Et pas justement ce que je disais avant, c'est que c'est une minuscule fenêtre sur 10 ans de guerre, où la population civile a énormément souffert.
Et puis une guerre en plus qui a ça de contemporain, qu'elle n'a pas de front. Finalement, on ne sait pas où elle, voilà, où elle démarre, ou quand est-ce qu'elle a lieu. Elle n'est pas entre des armées constituées. Et comme c'est très bien traduit d'ailleurs dans le film, c'est une espèce de guerre dans le quotidien entre... l'histoire où il se retrouve devant la porte de la mosquée, finalement, arrive plus ou moins à s'en sortir en entrant à la mosquée, ou l'histoire d'aller du côté du bois ou prendre de l'eau. On est sur des choses, c'est de la micro-histoire, il n'y a pas de champ de bataille, c'est vraiment une espèce de violence indicible et qui rend fou au demeurant, parce qu'elle n'est jamais déclarée, elle n'est jamais tout à fait déclarée comme une guerre se déclare, en fait. C'est ça aussi la difficulté, son rapport très... très fantomatique, parce que elle dure, elle s'installe, mais de manière beaucoup moins claire qu'un conflit, je dirais, classique.
Oui. Ou qui opposerait deux ennemis définis, clairs. Et c'est justement, c'est ça ce qui était extrêmement complexe, parce que c'est une guerre aussi froide, parce qu'il se peut qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, et après, pendant 2 mois, il n'y ait absolument rien. Mais les personnes vivent dans le terrible événement pendant 2 mois. Et il y avait quelque chose de très fort aussi dans le récit des personnes. Je me suis rendu compte aussi de ça au montage, c'est que en fait, chaque lieu est habité justement par quelque chose de fantomatique. Et le fait qu'on se trouve dans ce lieu-là, par exemple devant la porte d'une mosquée ou devant un arbre, ça m'avait fasciné, le fait qu'on se retrouve dans un lieu par des marques qui ne sont pas... Ce n'est pas une andrue ou c'est un arbre fruitier de telle espèce ou de telle espèce. Et du coup, chaque lieu qui peut être vraiment minuscule et porteur de quelque chose d'évocateur pour les personnes. Ils se réapproprient justement leur histoire à travers des points qui sont hyper intimes, mais en même temps qui racontent une histoire complexe et aussi rend compte aussi, je le redis toujours, des résiliences qu'ils ont dues, par lesquelles ils sont passés pour arriver au fait de revenir 20 ans après pour reconstruire.
Merci, Jamel.
Merci à vous.
نحوز عليها.
قول لي ما ساعدنيش كاع تمرية حروح انا.
Dash down the bar,